7h57.
Chapitre 105. La taille de la baleine diminue-t-elle ? La baleine est-elle vouée à disparaître ?
Puisque le Léviathan traîne jusqu'à nous sa masse volumineuse depuis les sources mêmes de l'éternité, on peut légitimement se demander si, dans le cours de ses nombreuses générations, il n'a pas dégénéré et perdu un peu de la taille originelle de ses aïeux. Les recherches nous apprennent que non seulement les baleines actuelles sont d'une grandeur supérieure à celles dont les restes de fossiles ont été découverts dans les couches tertiaires, système qui embrasse une période géologique particulière antérieure à l'homme, mais aussi que parmi ces dernières, les cétacés appartenant aux formations les plus tardives sont d'une plus grande taille que ceux des formations plus anciennes. De toutes les baleines préadamites exhumées à ce jour, la plus grande est de loin celle de l'Alabama mentionnée dans le chapitre précédent, et son squelette a moins de 70 pieds de long, alors que comme nous l'avons vu, la mesure donne 72 pieds pour le squelette d'une baleine actuelle de bonne stature. Et je tiens de la bouche même de pêcheurs baleiniers que l'on a pris des cachalots qui avaient près de 100 pieds de long au moment de la capture. Mais ne se pourrait-il pas que les baleines modernes, même si elles ont gagné en grandeur sur celles de toutes les périodes géologiques précédentes, aient dégénéré depuis l'âge adamique? C'est en effet la conclusion à laquelle on parvient si l'on doit accorder crédit à des esprits distingués tels que Pline et, de manière générale, les anciens naturalistes. Car Pline nous parle de baleines dont la masse couvrait des actes Car Pline nous parle de baleines dont la masse couvrait des actes et Aldrovandi de cétacés qui mesuraient 800 pieds de long. Une vraie corderie. La longueur du tunnel sous la Tamise et même au temps de Banks et Solander, les naturalistes de Cook, il se trouve encore un membre suédois de l'Académie des sciences pour attribuer à certaines baleines d'Islande, de l'espèce Reidarfisker ou ventre plissé, une longueur de 120 mètres, soit 360 pieds. Et Lacépède, le naturaliste français, au tout début page 3 de la savante étude des cétacés, accorde 100 mètres de long, soit 328 pieds, à la baleine franche. Or, cet ouvrage fut publié en l'an de grâce 1825. Un pêcheur de baleines croira-t-il de telles histoires? Assurément pas. La baleine actuelle est aussi grande que ses ancêtres du temps de Pline, et si d'aventure je me retrouve un jour devant Pline, où qu'il soit, je me ferai fort de lui dire, moi, qui suis plus baleinier qu'il ne fut jamais, car je ne puis comprendre comment il se fait que des momies égyptiennes ensevelies des milliers d'années avant la naissance de Pline ne mesurent pas plus dans leur cercueil qu'un gaillard du Kentucky dans ses chaussettes, ni d'où vient que le bétail et les autres animaux sculptés sur les plus vieilles tablettes d'Égypte et de Ninive, à en juger par les proportions relatives du dessin, prouve clairement que le beau bétail de race de marge de Smithfield, nourri à l'étable, non seulement égale mais surpasse en taille et de loin les plus grasses des vaches, grasses de chair de Pharaon. Non, en dépit de tous ces témoignages, je ne saurais admettre que de tous les animaux, la baleine seule est dégénérée. Mais il reste une autre question, souvent débattue par les plus absents penseurs de Nantucket. Celle de savoir si, du fait de la quasi-omniscience des vigies aux têtes des mâts des navires baleiniers, qui pénètrent aujourd'hui dans le détroit de Béring pour s'en aller fouiller au fond des tiroirs et des placards les mieux cachés de la planète, et de ces milliers de harpons et de lances qu'on darde au long des côtes de tous les continents, si donc, dans ces conditions, Léviathan survivra longtemps à une classe aussi méthodique et à un aussi cruel carnage, s'il n'est pas voué à disparaître tout à fait du monde des eaux, et si la dernière baleine, comme le dernier homme, ne fumera pas un jour sa dernière pipe, avant de s'évaporer dans l'ultime bouffée. Si l'on compare les troupes bossues de la baleine aux troupeaux bossus de bisons, qui, il n'y a pas 40 ans, sillonnaient par dizaines de milliers les grandes prairies de l'Illinois et du Missouri, et secouaient leurs crinières d'acier en plissant un front orageux sur l'emplacement de populeuses villes fluviales, où aujourd'hui un affable courtier vous vend la terre à un dollar le pouce, pareille comparaison tendrait à prouver de manière irrésistible que la baleine que l'on chasse ne pourra échapper à une extinction rapide. mais il faut examiner notre sujet sous tous les angles. Bien qu'il y ait peu, à peine une vie d'homme, la population de bisons en Illinois excéda celle des habitants de Londres aujourd'hui, et qu'il ne resta à ce jour, dans toute cette région, pas une corne ni un sabot, et bien que la cause de cette étonnante extermination soit la lance de l'homme. Cependant, la nature très particulière de la pêche de la baleine interdit absolument une fin aussi infâme au Léviathan. 40 membres d'un équipage chassant le cachalot pendant 48 mois estimeront qu'ils ont fait une campagne extrêmement fructueuse et en rendront grâce à Dieu. S'ils ramènent au port l'huile de 40 prises, tandis qu'au temps lointain, des chasseurs et trappeurs canadiens et indiens, lorsque l'Ouest, dont le couchant voit encore les levées de soleil, était une terre sauvage et vierge, un même nombre d'hommes chaussés de mocassins, voyageant pendant un même nombre de mois à dos de cheval, et non sur le pont d'un voilier, auraient tué non pas 40, mais 40 000 bisons au bas mot. Le fait, s'il en était besoin, pourrait être étayé de statistiques. En outre, et tout bien considéré, on ne voit pas que la thèse de l'extinction progressive du cachalot soit démontrée, entre autres arguments, par le fait qu'autrefois, disons dans la seconde moitié du siècle précédent, on rencontrait plus fréquemment qu'aujourd'hui de petites gammes de ces léviathans, ce qui rendait les croisières plus courtes et sensiblement plus rémunératrices. En effet, comme nous l'avons noté ailleurs, ces baleines, guidées par un souci de sauvegarde, parcourent de nos jours les mers en caravanes immenses, de sorte que les solitaires couples, gammes, écoles de naguère, se sont, dans une large mesure, regroupés en vastes cohortes que l'on aperçoit plus que rarement, de loin en loin, dans les parages fort éloignés des uns des autres. C'est tout. Il serait également faux de croire que l'espèce dite des baleines à fanons, parce qu'elle ne fréquente plus les eaux où on la trouvait jadis en abondance, est elle aussi en voie de disparition. Car ces animaux sont seulement pourchassés de cap en promontoire, et si tel rivage n'est plus animé par leur souffle, soyez sûr qu'une autre côte plus écartée s'étonne depuis peu de ce spectacle insolite. Il n'y a plus ces léviathans dont je viens de parler. Ces léviathans dont je viens de parler possèdent deux solides forteresses qui, pour autant que l'homme puisse en juger, resteront à jamais imprenables. De même que lors de l'invasion de leur vallée, les Suisses aux habits de givre se sont retirés dans leurs montagnes, les baleines à fanons, chassées des savanes et des clairières des mers centrales, peuvent trouver un ultime refuge dans leur citadelle polaire, et sonnant toutes les dernières barrières et murailles de glace, refaire surface parmi les amas de glace flottantes pour défier, dans le cercle enchanté d'un éternel décembre, la traque des hommes. Mais comme on harponne 50 peut-être de ces baleines à fanons pour un cachalot, des philosophes du Gaillard d'avant ont pu en conclure que pareille hécatombe a déjà sérieusement éclairci leur rang. Pourtant, bien qu'un certain nombre de baleines, pas moins de 13 000, soient depuis quelque temps décimées chaque année sur la côte nord-ouest par les seuls Américains, il existe des considérations qui réduisent à peu de choses, sinon à rien, ce qui se veut un contre-argument. Il est certes naturel de se montrer incrédule lorsqu'on évoque l'importance numérique considérable de ces créatures les plus grosses du globe. Mais alors, que faut-il répondre à Orto, l'historien de Goa, quand il nous raconte que le roi de Siam tua 4 000 éléphants au cours d'une seule chasse, et que dans ces régions, les éléphants sont aussi nombreux que les troupeaux de bétail des climats tempérés. Et l'on peut s'estimer fondé à penser que si ces éléphants, chassés pendant des milliers d'années par Sémiramis, Porus, Animal et tous les monarques successifs d'Orient, survivent malgré tout, sans grand nombre, à plus forte raison, la colossale baleine pourra-t-elle rester à toutes les chasses. Elle qui peut s'ébattre dans un pâturage précisément deux fois plus étendu que toute l'Asie, les deux Amériques, l'Europe, l'Afrique, la Nouvelle-Hollande et toutes les îles du monde réunies. J'ajoute qu'il nous faut prendre en compte la grande longévité présumée des baleines, qui pourra atteindre l'âge d'un siècle et davantage, de sorte qu'à qu'importe quelle époque, plusieurs générations distinctes d'adultes doivent être contemporains. Et ce que cela signifie, nous pouvons nous en faire rapidement une idée, en imaginant que toutes les nécropoles, les cimetières et les caveaux de famille de la création nous restituent vivants les corps de tous les hommes, femmes et enfants qui étaient en ville il y a 75 ans. Et en ajoutant à cette foule innombrable à la population actuelle du globe. Pour toutes ces raisons, nous tenons Léviathan pour immortel dans son espèce, bien que périssable dans son individualité. Il sillonnait les mers avant que les continents n'émergeassent des eaux. Il nageait jadis sur l'emplacement des Tuileries du château de Windsor et du Kremlin. Lors du déluge, il n'eut qu'un dédain pour l'arche de Noé, et si le monde venait à être submergé à nouveau, comme les Pays-Bas, pour exterminer les rats, l'immortel cétacé survivra et dressé sur la plus haute crête du flot équatorial, il défiera les cieux de son souffle écumeux.